Séoul, au jour le jour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La semaine dernière, la cérémonie de remise du titre de citoyen d'honneur a été organisée à Séoul. Cette année, 17 étrangers issus de 16 pays ont été distingués. Créé en 1958, le statut de citoyen d'honneur vise à exprimer la reconnaissance de la ville aux personnalités étrangères ayant contribué à relier la capitale sud-coréenne au monde ou ayant travaillé pour le progrès de la municipalité et au bien-être des habitants. À ce jour, 968 personnes ont reçu cette distinction. Les 17 lauréats de cette année ont été recommandés entre le 24 mars et le 16 mai par les ambassades, des organisations publiques et des associations, ainsi que par des groupes d'au moins 30 citoyens. La sélection finale a été approuvée par le conseil municipal de Séoul. Les nouveaux citoyens d'honneur ont contribué à la montée en puissance de Séoul dans les domaines variés tels que la science et la technologie, l'économie et la culture. Certains se sont engagés au sein de la communauté locale. Parmi eux, l'Allemande Anna Hillman, dont le nom coréen est Yoon Anna. Actrice et réalisatrice à Séoul, elle a assuré la mise en scène et le rôle de l'héroïne dans la pièce Hanajeon Hallo Chungnyang, une adaptation du pansori traditionnel. Elle a également fait connaître la vie à Séoul et la culture coréenne dans l'espace germanophone en tant que reporter pour KBS World Radio et le Centre culturel coréen de Berlin. Membre du Conseil des résidents étrangers de Séoul, elle a participé à l'amélioration des politiques en faveur des étrangers, tout en soutenant l'adaptation culturelle des jeunes dans le cadre d'un programme de mentorat entre l'Allemagne et la Corée du Sud. Quant au Britannique Peter Lambit, il a partagé des informations utiles sur le mode de vie du pays du matin clair via Arirang Radio et sa chaîne YouTube. Enfin, le Népalais Pundipak a été récompensé par les présidents de plusieurs établissements pour ses actions en faveur des droits des Népalais résidents à Séoul et du développement de la communauté locale. Il a fondé une école de langue népalaise pour enfants métis d'origine népalaise et a établi un réseau de coopération avec un cabinet d'avocats afin d'aider les étrangers. Kim Tae-gyun, premier vice-maire administratif de Séoul, a déclaré que la ville ferait de son mieux pour construire une ville encore plus dynamique afin que les citoyens d'honneur en soient fiers. À l'approche de la fin d'année, l'association à but non lucratif Community Chest of Korea lance aujourd'hui sa campagne nationale de dons 2026 qui se poursuivra pendant 2 mois. L'objectif pour cette édition s'élève à 450 milliards de won, soit 264 millions d'euros, un montant légèrement supérieur à celui de l'an dernier. La campagne, portée par le slogan « Un don qui ajoute du bonheur, un avenir transformé par le don », se déploiera simultanément dans les 17 provinces et grandes villes du pays. Cette année, le symbole de l'événement, le célèbre thermomètre géant, adopte un nouveau design représentant la chaleur des dons qui s'élève vers le ciel comme la fumée d'une cheminée. Une idée proposée par un étudiant dans le cadre d'un concours national. Ces thermomètres seront installés dans les principales villes, notamment sur la place de Gwanghwamun à Séoul. Chaque fois que 1% de l'objectif, soit 4,5 milliards de won, est atteint, la température grimpera d'un degré. Le thermomètre devient également un espace expérientiel. À sa base sera installée une zone de don avec récompense destinée aux jeunes générations. Il sera possible d'y faire un don via carte, espèce, QR code ou même l'application TOS. Mais le plus grand changement de la campagne 2026 est l'élargissement des modes de don. La CCK a signé en août un mémorandum d'entente avec Dunamu, l'entreprise qui opère la plateforme de crypto-monnaie Upbit, afin de permettre un don à travers des actifs numériques. Dès le mois prochain, un NFT sera émis et les recettes serviront à soutenir des foyers en situation de crise. En effet, des grandes contributions en actifs numériques ont déjà été faites pour la première fois cette année. Des entreprises ont versé 5 bitcoins et un donateur individuel en a offert un. Pendant la campagne, la CCK prévoit d'ouvrir un site spécial en ligne et de mettre à disposition des boîtes de dons sur différentes plateformes. De plus, les activités de promotion seront renforcées sur les réseaux sociaux pour encourager la participation du public. L'organisation compte également lancer plusieurs programmes participatifs, comme du crowdfunding, visant à financer le chauffage et les équipements d'hiver, ou encore la distribution d'émoticônes sur KakaoTalk. Alors que la grippe continue de circuler en Corée du Sud, sur les forums des mères en ligne, il n'est pas rare de voir cette question. Est-ce que vous connaissez un pédiatre qui a encore le vaccin quadrivalent ? Cette année, la campagne nationale de vaccination contre la grippe utilise un vaccin trivalent. Mais beaucoup de personnes continuent à chercher le quadrivalent, plus coûteux. À Séoul, certains cabinets affichent des panneaux indiquant qu'ils sont les rares à en disposer et que les stocks sont limités. Sur certaines plateformes de téléconsultation, il existe désormais une liste spéciale des hôpitaux où l'on peut le recevoir. Alors, quelle est la différence entre les deux vaccins ? Le vaccin trivalent protège contre deux souches du virus, la A et la B. Pour le vaccin quadrivalent, il y ajoute une deuxième souche de virus B appelée Yamagata. Comme il couvre un type de virus en plus, il coûte environ 10 000 won de plus, soit près de 6 euros. Pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, le trivalent est gratuit, mais le quadrivalent est entièrement à leur charge. Pourtant, les experts estiment que le vaccin trivalent est suffisant, parce que le virus B Yamagata n'a plus été détecté depuis des années et il est considéré comme disparu au niveau mondial. L'Organisation mondiale de la santé a d'ailleurs recommandé en février d'utiliser le vaccin trivalent. En Corée du Sud, ce virus n'a plus été détecté depuis juillet 2019. L'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies de Corée a expliqué que le vaccin trivalent suscite une réponse immunitaire similaire à celui quadrivalent pour les souches A et B et qu'aucune différence n'avait été observée en termes de sécurité. Elle estime que les mesures de prévention mises en place pendant la période de la COVID-19 ont fait disparaître cette souche. Il est toujours possible d'attraper la grippe même après la vaccination, mais cela ne veut pas dire que le vaccin ne sert à rien. En plus de baisser le risque d'infection, il réduit aussi le risque d'évoluer vers une forme sévère en cas de contamination. Comme les anticorps de protection mettent environ 2 semaines à se former après l'injection, il est conseillé de se faire vacciner avant le pic de l'épidémie. Lisons à présent le message d'un de nos auditeurs. Dans l'émission République de Corée 80 ans d'indépendance, nous avons parlé de Kim Yuna, la première patineuse à avoir remporté toutes les compétitions majeures du patinage artistique féminin auxquelles elle pouvait participer. À ce sujet, Marie-Odile Bruno a écrit « Le sport au-delà de soi-même ». C'est vrai, c'est justement pour ça que les sportifs qui s'entraînent dur et dépassent leurs limites nous émeuvent autant. Merci pour votre message. Dans la prochaine nouvelle, nous parlerons d'une chaîne étrangère qui a comparé le taekwondo à un art martial de ninja. Mais avant, faisons une pause musicale avec Taekwondo de Jin Ocean.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Une célèbre chaîne sportive canadienne a suscité la controverse après avoir présenté le taekwondo comme un entraînement de ninja. La Corée du Sud étant le pays d'origine de cet art martial, ses habitants sont nombreux à demander à corriger activement ce genre d'erreur. Le 25 novembre dernier, TSN a publié sur ses réseaux sociaux officiels une vidéo montrant des athlètes faisant une démonstration de taekwondo avec un sous-titre « Ninja Training ». Le clip est rapidement devenu viral, dépassant les 170 000 mentions « j'aime ». Fondée en 1984, TSN est la première chaîne sportive du Canada et l'un des deux principaux médias sportifs du pays avec ESPN. Bon nombre d'internautes sud-coréens ont tout de suite exprimé leur indignation. Parmi les commentaires, vu l'emoji ninja qu'ils ont mis, on dirait qu'ils l'ont fait exprès. Une chaîne sportive ne devrait pas déformer des faits aussi basiques. Ou encore, le taekwondo est un art martial coréen, pourquoi utiliser un terme d'origine japonaise? Certains ont directement demandé une correction à TSN. Un incident similaire a déjà eu lieu l'année dernière. Lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le compte officiel du Comité international olympique a publié une vidéo de taekwondo avec un hashtag lié au judo. Sous le feu des critiques, il a fini par modifier la publication. Selon Seok Yong-dok, professeur de l'université féminine de Songshin, cette confusion résulte d'une faible reconnaissance de la Corée comme berceau du taekwondo et d'un manque de distinction entre les arts martiaux asiatiques. Il a affirmé qu'au-delà de l'indignation, l'important, c'est de réclamer une correction légitime. Les cantines scolaires en Corée du Sud font l'objet d'un véritable engouement sur Internet. Les vidéos comme « J'ai fait goûter un repas scolaire sud-coréen à un enfant britannique » deviennent virales, tandis que de plus en plus d'élèves ou d'enseignants photographient leurs plateaux repas pour les partager sur les réseaux sociaux. Ce qui distingue avant tout les cantines sud-coréennes de celles d'autres pays, c'est la diversité et la générosité des menus. La série de publications postées sur le forum international Reddit par un enseignant américain travaillant dans une école en Corée du Sud en est un bon exemple. Chaque jour, au moins 5 différents petits plats y sont proposés, allant d'un gros morceau de travers de porc avec du kimchi récemment préparé jusqu'à du jjajangmyeon, des nouilles à pâte de haricots noirs avec des légumes frits. Les internautes américains habitués au système qui classifie la pizza à sauce tomate ou les frites comme des légumes ont été impressionnés par la quantité des légumes frais servis dans les plateaux coréens. D'un autre côté, un célèbre youtubeur qui a plus de 29 millions d'abonnés a comparé les repas scolaires de plus de 30 pays et la Corée du Sud s'est hissée sans difficulté dans la catégorie la plus élevée, le rang S avec seulement 3 autres pays. Les États-Unis ont été classés C, le Royaume-Uni D et l'Allemagne F. Les internautes sud-coréens ont laissé des commentaires avec fierté. Beaucoup d'ingrédients sont bio et une diététicienne élabore chaque jour un menu différent. Ou encore, c'est un pays qui prend le repas vraiment au sérieux. Selon les régions, les internautes partagent quelles écoles servent les meilleurs repas et on voit même circuler la liste top 7 des meilleures cantines du pays. Certaines diététiciennes qui publient chaque jour des photos des plateaux repas généreux et colorés sont même devenues de véritables stars des réseaux sociaux. Au pays du matin clair, les cantines sont encadrées par la loi. Qu'il s'agisse des principes de gestion, de l'équilibre nutritionnel, des normes d'hygiène ou de la répartition du personnel. Comme le niveau général est devenu très élevé, on voit aujourd'hui des plaintes de luxe telles que « trop de plats épicés » ou « pourquoi servir des raviolis industriels plutôt que des raviolis faits à la main ?» Le boys band sud-coréen Seventeen a réalisé un clip spécial en s'associant avec des partenaires peu communs, les Schtroumpfs. L'agence du groupe Playdis Entertainment a récemment dévoilé la nouvelle vidéo du titre God of Music, créée conjointement avec la société Peyo, qui détient les droits des petits lutins belges. Dans le clip, les célèbres personnages comme le grand Schtroumpf et la Schtroumpfette s'ajoutent sur les images originales de God of Music tournées à Budapest. Ils dansent même la chorégraphie emblématique du morceau aux côtés des membres de Seventeen. Et à la fin, de nouveaux schtroumpfs créés spécialement autour du thème du groupe font leur apparition. Selon l'agence, ce clip est né d'une coïncidence intéressante. La date de sortie de God of Music et l'anniversaire des schtroumpfs tombent tous les deux le 23 octobre. Et les deux contenus mettent en avant l'idée de coexistence et d'harmonie. Véronique Culliford, présidente de Peyo et fille du créateur de la bande dessinée, a expliqué que cette collaboration repose sur les valeurs de plaisir et d'amitié qui correspondent parfaitement à la vision de l'œuvre, apporter davantage de rire, de joie et d'harmonie dans le monde. Avant de passer à Focus Asie, écoutons ensemble God of Music de Seventeen. 귀신이 있다면 고마워
Pour bien commencer la semaine, quoi de mieux que les faits divers en provenance d'Asie? Voici Focus Asie, présenté par Ohayang.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Asie. Nous larguons les amarres pour la Malaisie et son projet de loi d'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. À l'instar de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et du Danemark, la Malaisie veut protéger ses jeunes des risques liés au numérique. Dès l'an prochain, Kuala Lumpur veut bloquer l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. Le gouvernement explique vouloir protéger les jeunes des prédateurs en ligne et mieux lutter contre la cybercriminalité. Parmi les pistes étudiées, une vérification obligatoire de l'identité des utilisateurs via carte d'identité, passeport ou identifiant numérique. Les plateformes numériques, elles, sont attendues au tournant et devront proposer des systèmes de vérification d'identité d'ici l'an prochain. Cap sur le Vietnam qui a reçu le résultat de son test d'anglais et enregistre une légère amélioration. D'après l'indice de compétences en anglais EFEPI 2025, le pays de l'Asie du Sud-Est atteint 500 points et entre ainsi dans le niveau central moyen, se classant 64e sur 123. Hanoï tire nettement son épingle du jeu avec 532 points, tandis que les autres grandes villes reculent un peu. Les meilleurs résultats sont obtenus par les jeunes adultes de 26 à 30 ans qui frôlent les 544 points. En Asie, le Vietnam gagne une place et se hisse au 7e rang, loin derrière la Malaisie et les Philippines. Et sachez qu'à l'échelle mondiale, les Pays-Bas restent champions toutes catégories. Direction la Chine maintenant, où les autorités multiplient les coups de pouce pour encourager les mariages. Face à la chute des unions et des naissances, plusieurs villes offrent désormais des bons de consommation aux nouveaux mariés. À Ningbo ou Hangzhou, cela représente jusqu'à 122 euros utilisables pour la cérémonie, les photos, le voyage. À Luoyang, un couple en première union reçoit 184 euros en espèces remis directement au guichet d'enregistrement du mariage. Et à Tianmen, les jeunes mariés peuvent obtenir 7 310 euros pour acheter un logement, en plus de subventions pour 2 et 3 enfants. Ces mesures sont immédiatement mises en place après des statistiques montrant depuis 3 ans une fécondité inférieure au taux de renouvellement de la population. Et nous nous envolons pour le Japon, qui prépare un plan de révision de la façon dont les personnes âgées paient leurs frais médicaux. L'idée consiste à intégrer leurs revenus financiers, comme les dividendes, dans le calcul des primes d'assurance et des restes à charge. Jusqu'ici, ces revenus étaient difficiles à détecter avant la déclaration fiscale et n'étaient donc pas pleinement pris en compte. Tokyo souhaite ainsi augmenter la contribution des seniors ayant une capacité financière tout en allégeant celle de jeunes générations. La mesure doit figurer dans le nouveau plan économique du cabinet Takaichi avec un projet de loi attendu l'an prochain. La mise en place de cette réforme nécessite toutefois de nouveaux systèmes informatiques et son application pourrait prendre plusieurs années. Notre voyage de la semaine s'achève au Japon, dans la petite ville de Masuda, où un cabaret vieux de 87 ans ouvre ses portes un jour par mois aux seniors. En pleine journée, la salle habituellement silencieuse se remplit de chansons et de voix retrouvées. Beaucoup de personnes âgées y viennent pour rompre la solitude. C'est le cas du couple Ohata, interviewé par la NHK. Elle souffre de démence, mais lorsqu'elle se met à chanter sur scène, son visage s'illumine sous le regard ému de son mari. Pour ces seniors, le cabaret devient un lieu et un lien social retrouvé après la fin de leur vie active. Une initiative simple qui pourrait se développer dans la solitude et l'isolement sont le quotidien de nombreux aînés.
Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du lundi. C'était Lee Ji-eun à la rédaction, Elodie Stanislas au micro et Oh Ha-young à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite un très bon début de semaine à l'écoute de KBS World Radio.